Bonsoir à tous et ben merci, je suis très heureux d'être parmi vous à Marly-le-Roi. Merci beaucoup à l'association des Amis de la Bibliothèque, à Béatrice aussi au théâtre de m'accueillir. Je suis très heureux de venir vous parler de cette initiative que j'ai eue au printemps dernier pour Télérama. Et alors pour moi, l'idée dans cette petite heure où je suis censé vous parler avant qu'il y ait des questions, mais l'idée c'est aussi que vous puissiez après poser des questions, parce que je pense que c'est l'échange qui est intéressant, c'est un peu de faire un chemin un peu d'équilibriste, parce que bah, évidemment je viens vous parler de ce palmarès que j'ai fait, plus largement de mon activité de journaliste et de journaliste littéraire, et aussi de mon activité d'auteur, puisque effectivement, comme Béatrice vous le soulignez, voilà, j'ai écrit et j'ai publié mon premier roman l'année dernière, donc Les Présences Imparfaites, aux éditions Rivage. Voilà, donc là en plus on sort des grands prix, comment dire, des grands prix littéraires de l'automne. Voilà, donc j'ai la chance de le chroniquer comme journaliste, mais également aussi bah, de l'avoir aussi vécu comme auteur, puisque mon livre avait été programmé en août 2024, donc au moment de la rentrée littéraire de l'année précédente. Et alors je suis particulièrement content de vous rencontrer, et je sais qu'il y a des lycéens dans la salle, et je vais peut-être commencer peut-être en vous disant un mot de mon parcours avant de parler plus directement du palmarès et de cette tentative finalement de dire on est en 2025 et qu'est-ce qu'on peut dire de finalement de la littérature contemporaine, de quelles sont les grandes œuvres qu'on retiendra en 2100, en 2150, puisqu'on sera certainement tous encore là. Peut-être un mot pour vous dire que moi-même, en fait, quand j'avais votre âge comme lycéen, pour le bac de français, j'étais un très mauvais élève parce que je n'avais pas lu un seul livre qui était au programme, puisqu'à l'époque, la littérature ne m'intéressait pas vraiment. Donc je vous admire beaucoup parce que vous faites déjà partie d'un jury de prix littéraire prestigieux. Et je dis ça au-delà de la boutade, on va dire, c'est que voilà, moi, c'est vrai que la littérature m'a intéressé de façon très intermittente quand il y avait des cours sur la poésie yacht, mais je n'étais pas du tout un lecteur, je n'ai pas du tout lu tout Victor Hugo à 12 ans et écrit mon premier roman à 14, et c'est vraiment, la littérature en fait m'a vraiment intéressé à partir de la vingtaine en fait, quand je fais des études à Sciences Po à Bordeaux, puis à l'école journalisme, parce qu'en fait elle m'a intéressé non pas de façon scolaire, même s'il y a des excellents profs évidemment qui transmettent très bien, mais en fait quand j'ai réalisé que la littérature c'était aussi la vie, c'était pas simplement des grands noms un peu abstraits qui flottaient dans le ciel et qu'il fallait absolument lire. Et en fait c'est quand, je sais pas, à 22-23 ans j'ai lu Madame Bovary et que je suis certain que je n'aurais pas compris à 17 ans ou que ça m'aurait semblé un pensum interminable. Et à 22-23 ans en fait j'ai compris, c'est un livre qui m'a parlé, voilà, pour prendre le classique des classiques. Mais voilà, plus largement, c'est vraiment quand j'ai compris que la littérature, bah, c'était vraiment un rapport à l'existence et que les écrivains, c'était pas juste des gens chiants comme je pouvais penser à 15 ans, mais des gens qui en fait souffraient, existaient, avaient une capacité de créer, que j'ai compris que ça pouvait répondre aussi à des questions, ou en tout cas poser des questions qui me semblaient brûlantes sur l'existence, sur pourquoi on est là, sur comment on avance, et aussi avec des formes extrêmement inventives, parce que le roman, au fur et à mesure des siècles, et c'est un peu ce que montre le palmarès dont je vais vous parler. Je crois que le roman, dans la forme littéraire, on sait qu'à l'Antiquité, il y avait les tragédies grecques, il y a eu la poésie. Au XIXe siècle, vous savez, l'Académie française ne récompensait que la poésie et le théâtre, et le roman était vu comme un genre mineur. Et c'est la création de l'Académie Goncourt au début du XXe siècle qui a conduit l'Académie française à créer un prix du roman en comprenant qu'ils étaient un peu en train de rater la modernité. Et au fur et à mesure du temps, et notamment de la modernité, c'est vrai que c'est le roman qui, au sein de tous les genres littéraires, a vraiment absorbé et eu la capacité peut-être de vraiment d'absorber les autres genres et aussi de les magnifier et de vraiment intégrer beaucoup de choses, même au-delà de la littérature, d'intégrer de la physique, d'intégrer de la philosophie pour devenir une espèce de forme un peu totale. Et je pense que le palmarès, je regarde juste l'heure pour parce que je sais que c'est un peu limité, le palmarès donne un écho de ça. Je crois que le XXIe siècle montre que on arrive à un moment où le roman total a vraiment trouvé une forme extrêmement puissante. Alors, en un mot, moi je suis avignonnais, j'ai fait mes études à Montpellier, à Sciences Po à Bordeaux, et je suis entré en école de journalisme. Et je suis devenu journaliste littéraire de façon un peu inattendue, c'était pas du tout un but objectif. Enfin, moi j'ai jamais fait une heure de cours de littérature dans ma vie. J'ai vraiment lu de façon un peu autodidacte. Comme je vous dis, à partir de ma vingtaine, c'est la période où j'étais à Bordeaux, où j'étais à Sciences Po par ailleurs, où j'étudiais plutôt l'économie, etc., que j'ai commencé à lire. Et donc je suis sorti à 25 ans de l'école de journalisme. J'ai passé 3 ans et demi dans une agence de presse sur la santé, donc pas du tout rien à voir. Et puis ensuite je suis devenu pigiste. Pigiste, en deux mots, c'est un journaliste qui n'est pas dans une rédaction, mais qui est rémunéré par plusieurs journaux. Donc effectivement, moi, mes employeurs principaux, c'est Télérama, c'est Le Monde. J'ai aussi une émission sur Arte qui s'appelle Les Idées Larges. Donc il a plutôt de l'audiovisuel. Voilà, donc moi je travaille pour plusieurs rédactions et c'est pour ça qu'on peut lire mes articles dans plusieurs rédactions. Je travaille sur beaucoup de sujets, mais beaucoup autour des livres aussi, des idées, c'est-à-dire des essais, de l'anthropologie, de la sociologie, etc. Et pour en particulier Télérama sur la littérature. Et donc voilà, c'est un peu au fur et à mesure, j'ai commencé à piger à Télérama. Plutôt sur la critique de documentaires, vous savez, dans les cases télévision, il y a des critiques de documentaires. Donc c'est un peu comme ça, puis au fur et à mesure, au sein de la rédac, c'est comme ça que j'ai un peu commencé à parler de littérature. Et puis voilà, ça fait à peu près 5 ans maintenant que je collabore avec le service livre, qui est dirigé par Nathalie Krom, qui le dirige depuis 10 ou 15 ans maintenant. La littérature, comme critique, j'en fais aussi une fois par mois sur Mediapart, il y a un podcast, un peu sur le modèle du Masque et la Plume, qui s'appelle L'Esprit Critique, où chaque mois on chronique 3 romans. C'est un podcast qu'on peut écouter gratuitement, c'est 3 quarts d'heure à peu près. Chaque semaine, c'est art, spectacle, théâtre, etc. Et une fois par mois, c'est de la littérature. Et donc on est 3 critiques avec quelqu'un qui anime, on parle à chaque fois de 3 romans. On a notamment parlé du prix Fémina dans le dernier podcast qui est sorti, donc de Natacha Pana. Je ne sais pas si vous lui donnerez le Fémina des lycéens. Mais voilà, et j'ai aussi une chronique littéraire dans la revue Esprit, voilà, 2-3 fois dans l'année. Donc voilà, donc je suis devenu journaliste littéraire un peu sans le vouloir, mais en même temps c'est une chance énorme parce que, comme je vous le dis, moi j'écris aussi par ailleurs. Et... peut-être je voulais vous dire 2 mots sur ce qu'est être journaliste littéraire, parce que c'est quelque chose qui à la fois, voilà, qu'on comprend tous, mais en même temps qui peut avoir l'air un peu abstrait. La première chose, déjà, quand on est journaliste littéraire, alors en plus, c'est vrai que Télérama, c'est un des journaux qui est le plus recherché par les maisons d'édition dans la presse écrite avec Le Monde, parce que c'est un média qui est très lu, qui est très prescripteur. Quand on dit prescripteur, ça veut dire que, bon, en fait, ça fait acheter des romans, globalement. Et donc, on est, bah forcément, ça fait partie des médias qui sont assez courtisés par notamment les attachés de presse des maisons d'édition. Donc, la première chose, quand on est journaliste littéraire, au jour le jour, c'est de recevoir beaucoup de livres. Pour vous dire, je pense que je dois recevoir entre 10 et 40 livres par semaine chez moi. Donc, évidemment, je peux pas lire la plupart. Et on en parlait juste avant avec Béatrice. Il y a divers domaines artistiques, il y a le cinéma, le théâtre, etc. Et c'est vrai que la littérature se caractérise par quelque chose de particulier, c'est qu'on est soumis à une forme d'abondance, de trop-plein en permanence, parce qu'il y a beaucoup trop de livres par rapport à la capacité d'absorption qu'on a. Ce qui fait que c'est un regret permanent quand on est journaliste littéraire, parce qu'on aimerait parler de plein de livres, on aimerait en ouvrir plein, mais on a des piles entières qui s'amassent et qu'on n'a même pas le temps forcément d'ouvrir. Je ne sais pas si pour rendre concret ça, vous avez une idée du nombre de livres qui sortent dans une rentrée littéraire. Mais en gros, voilà à peu près. Bah voilà, vous êtes bien révisé. ce qu'on appelle une rentrée littéraire, c'est peut-être plus pour les lycéens, c'est donc 2 fois dans l'année, il y a la rentrée en août. C'est assez français comme truc, c'est pas dans tous les pays que ça se passe comme ça. Mais en gros, entre août et septembre, il y a tout un tas de livres qui sont publiés. Il y a un gros ensemble de publications. Et en janvier et février, c'est les 2 rentrées. Il y a la rentrée d'hiver, la rentrée d'été, c'est la principale parce que la rentrée littéraire de août-septembre, c'est vraiment là où les maisons d'édition présentent les livres sur lesquels elles misent le plus, sur lesquels il y a le plus d'enjeux, parce que la rentrée littéraire d'août, c'est celle des livres en fait, qui vont être susceptibles d'être dans les listes des principaux prix littéraires, les prix de l'automne. En France, il y a des centaines de prix littéraires, enfin, il y en a vraiment énormément, mais il y en a un certain nombre qui ont beaucoup de valeur, parce que leur histoire, leur prestige, mais aussi le nombre de livres qu'ils font vendre. Et il y en a 5 en particulier de prix littéraires qui sont distribués à l'automne, qui sont très importants. Celui évidemment qui vient en premier, c'est le prix Goncourt, le prix Renaudot, il y a le prix Médicis, le prix Fémina, et le Grand Prix du roman de l'Académie française, qui sont un peu les 5 prix qui sont vus comme les plus prestigieux dans le monde littéraire. Et donc c'est pour ça que les maisons d'édition publient beaucoup, alors à la rentrée d'hiver, mais essentiellement à la rentrée d'août, un peu les livres sur lesquels ils misent pour avoir les grands prix. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, là, cette année, entre mi-août et le mois d'octobre, chaque année, Livre Hebdo, qui est un peu le magazine, enfin le média professionnel, fait un comptage à chaque rentrée littéraire, en fait, du nombre de livres qui sortent. Et là, c'était 484 romans donc, qui sont sortis. Alors, c'est français et étranger, hein, c'est mélangé. Mais ça ne compte pas du tout la philosophie, enfin, ce qui n'est pas du domaine littéraire. Donc, pour vous dire, c'est énorme. Donc, il y a 484 romans qui ont paru. L'année précédente, donc l'année où moi j'étais 1 sur 459, en août 2024. Et sachant que c'est plutôt en baisse par rapport à il y a 10 ans où c'était le pic, on était vers 700 livres à la rentrée littéraire. Mais là, pour tout un tas de phénomènes et de questions, notamment le prix du papier qui a explosé depuis le Covid, les maisons d'édition essaient de publier moins parce que ça coûte quand même cher de publier un livre. Voilà. Mais donc, pour vous dire, quand vous êtes journaliste littéraire, en fait, dès le mois de mai, vous commencez à recevoir des livres qui sortent en septembre. Et dès le mois de mai-juin, vous avez des attachés de presse qui vous proposent des cafés pour vous parler de la rentrée, de telle maison d'édition qui va publier ça. Et là, typiquement, dès le mois d'octobre, les maisons d'édition envoient les programmes, c'est-à-dire des PDF où il y a marqué les livres qui vont publier aux journalistes. Et là, depuis quelques, je sais pas, depuis 2-3 semaines, je reçois des livres qui vont sortir en janvier ou février. Donc voilà, donc c'est vrai que pour le grand public, quand on voit la rentrée d'août ou de janvier, on a l'impression que les livres sortent maintenant, mais en fait, il y a tout un travail préparatoire qui ne se voit pas forcément, mais qui est effectué avant, en mai-juin pour la rentrée d'août et en novembre-décembre pour la rentrée de janvier, et qui est vraiment un moment assez décisif, parce que c'est notamment là où aussi les maisons d'édition rencontrent les jurés des grands prix en leur disant, on va publier ça, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est... Au jour des littéraires, au jour le jour, c'est d'abord recevoir énormément de livres, ce qui est une chance, mais c'est aussi effectivement beaucoup de regrets de ne pas pouvoir tout chroniquer et tout voir. Alors je sais que parmi les questions que vous m'avez transmises, Béatrice, il y a aussi, expliquer en deux mots peut-être comment fonctionne Télérama sur le service littéraire, et vous m'avez mis son prestige avec l'été. Alors ça, je sais que pour les lycéens, Télérama, à chaque fois qu'on fait une critique sur un disque, une émission de télé, un livre, il y a un nombre de T qui va de 1 à 4, voire 0 quand c'est nul, quand le critique estime que c'est nul. Et effectivement, ça quand on note les choses, en général, les gens adorent ça. Et c'est vrai que souvent, les gens retiennent le nombre de T, alors que des fois, c'est plus la critique qui... des fois, ça arrive de mettre 2 T, ce qui n'a pas l'air bien, mais la critique est plus positive qu'un 3 T, ou on va parfois dire avoir certaines nuances. Mais le service littéraire de Télérama, en fait, il est assez, assez maigre, puisqu'il y a 2 ou 3 journalistes permanents. Il y en a un qui fait la BD, il y en a une qui fait de la littérature générale, mais qui fait aussi de la jeunesse, parce qu'il y a des pages aussi, des fois, il y a de la littérature jeunesse qui est chroniquée. Il y a une assistante qui est chargée de réceptionner tous les livres. Alors moi, j'en reçois beaucoup, mais eux, à Télérama, ils reçoivent vraiment tout. Donc, dans la rédaction de Télérama, il y a une espèce de pièce fermée avec des rayons entiers de livres qui sont ceux qui en fait, sont en train de paraître là. Et tous les X mois, en fait, il y a des énormes caisses qui sont envoyées pour les donner. Je ne sais pas ce qu'ils en font, ils les donnent et autres. Mais parce qu'en fait, il y en a tellement qu'à un moment, il faut vider les lieux. Et en tout cas, tout ça, c'est la masse sur laquelle on travaille. Et concrètement, journaliste littéraire, c'est avant tout écrire des critiques ou les faire à l'oral quand c'est le podcast de Mediapart auquel je participe. C'est donner son regard, son avis sur un livre. Et donner son regard et son avis, ça veut dire quelque chose qui n'est pas juste j'aime ou j'aime pas. C'est aussi, en tout cas moi quand j'écris une critique, ce que j'essaie de faire, c'est que évidemment il y a des livres que j'aime, il y a des livres que j'aime pas, mais c'est de restituer la démarche de l'auteur, c'est-à-dire je pense qu'il faut qu'une bonne critique elle transmette une énergie quand on a envie de porter le livre, et généralement à Télérama en fait il y a tellement de livres que globalement on ne parle que des livres qu'on a aimés, il n'y a jamais de critique négative sauf si c'est un auteur très connu, je ne sais pas, Houellebecq ou Carrère, qui sort un livre où là, c'est un peu un passage obligé. Mais quand c'est un auteur pas très très connu, on n'écrit que si on apprécie, en gros. Et l'idée, moi, quand j'écris une critique, c'est un peu de restituer la démarche de l'auteur et de faire comprendre aussi dans quoi le livre s'inscrit. C'est-à-dire, un livre, il ne sort pas de n'importe où, il s'inscrit dans une forme. Est-ce que c'est de l'autofiction, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte sa vie, ou est-ce que c'est de... la science-fiction, ou est-ce que c'est un roman étranger, un roman français. Donc l'idée à chaque fois, c'est de restituer la démarche de l'auteur, dans quoi il s'inscrit, et de donner son avis à partir de là. Voilà. Mais il y a quand même une base commune qui fait que le travail de critique, en tout cas à mes yeux, c'est pas simplement celui de dire j'aime ou j'aime pas, mais c'est aussi de transmettre quelque chose avec ça, et si possible une énergie, parce que quand on a aimé un livre, bah, c'est aussi une chance de pouvoir dire aux gens, bah, lisez-le, c'est super, et voilà. Et quand on sait que, enfin, quand on écrit une critique et que la semaine d'après, bah, il y a des ventes, ça déclenche des ventes, et etc. Bah, c'est quelque chose qui est extrêmement plaisant et gratifiant. Donc voilà, donc le journalisme littéraire, c'est beaucoup de la critique, mais pas que. Des fois, on peut faire des articles. Je sais pas, quand il y a le prix Nobel littérature, on peut écrire un article sur le nouveau prix Nobel, voilà, qui a été primé. Et peut-être justement, parmi ces initiatives-là, bah, vous parlez de celle qui, moi, alors j'ai commencé à bosser à Télérama en 2020 avec le service des livres, et l'idée de faire ce palmarès, donc, qui a été un peu qui a fait la couverture en début avril dernier, mais venu l'été dernier justement, parce que au-delà des nouveautés, de la chronique, de l'actualité, bah, l'idée c'était aussi de dire, bah, finalement, voilà, on arrive en 2025 et qu'est-ce qu'on peut dire de la littérature de notre début de siècle. Et en fait, cette idée, elle m'est venue, j'étais en vacances en Normandie en août dernier, et en fait, je lisais un livre qui est dans les 25 finalement, qui s'appelle Aude, un auteur finlandais qui s'appelle Mikki Lukonen, qui s'est suicidé il y a 2 ans à 33 ans et qui a écrit ce livre à 25 ou 26 ans, qui est un livre de 800 pages extraordinaire dont je vous reparlerai sûrement après. Et en fait, en le lisant, je me suis vraiment dit, c'est un livre qui est sorti dans les années 2015-2016 en Finlande et qui a été traduit en 2020 en français. Et en le lisant, je me suis vraiment dit, j'ai l'impression de lire un des plus grands livres du 21e siècle. Et donc je disais, je suis sur mon transat en train de finir ce livre, et en me disant ça, je me suis dit, mais tiens, ce serait intéressant de... Enfin, en fait, le fait de me dire ça, immédiatement, je me suis dit, mais tiens, ce serait intéressant de savoir qui... Enfin, qu'est-ce que les gens du livre diraient des plus grands livres du XXIe siècle. En fait, c'est un peu de là que ça m'est venu. Et assez vite, en y réfléchissant, je me suis dit, bah, ce qui serait intéressant, ce serait de demander... on va dire à un panel de gens qui sont vraiment dans le monde du livre, qui sont des gros lecteurs, parce que évidemment que un livre, enfin ce que je tiens à dire quand même avant ça, c'est aussi, c'est pas que par snobisme, c'est aussi parce qu'en fait il y a peu de gens qui lisent énormément, mais aussi parce que lire ça coûte cher. Et un livre aujourd'hui, alors en plus avec le prix du papier et l'inflation, c'est quand même 25 €. Et évidemment, les gens lisent surtout des livres de poche, surtout des classiques, en se disant, bah, vaut mieux que je mette 10 € dans un classique dont je suis sûr que c'est bien, plutôt que, au moins, j'aurais lu tel classique que dans une nouveauté dont je ne suis pas très sûr. Et que, effectivement, quand on a la chance de recevoir tout ça gratuitement, bah, c'est pas très grave si on n'aime pas. En fait, on peut se permettre de lire le dernier Emmanuel Carrère, Natacha Appana ou Mauvignier, et de pas trop l'aimer parce que, bah, on n'a pas payé le livre. Mais évidemment que la plupart des gens, bah, ils n'ont pas 400 € à mettre dans la rentrée littéraire. Enfin, très rares sont les gros lecteurs. Et souvent, les très gros lecteurs, ceux qui sont estimés les gros lecteurs, ont tendance à s'affaisser au fur et à mesure du temps. C'est souvent des lecteurs à un certain âge aussi. Voilà. Et donc, je me suis dit, ce serait super, peut-être, en fait, qu'on était en 2024, c'était en août 2024, et je me suis dit, 2025 arrive. Et ce que je me suis dit, 2025, c'est un bon chiffre pour s'arrêter et dire, c'est un quart de siècle, 2025, donc il y avait un côté symbolique. Et je me suis dit immédiatement, si je réfléchis un siècle avant, en 1925, quel livre était paru ? Et en 1925, trois grandes œuvres étaient déjà parues. La Recherche du temps perdu de Proust. Alors, peut-être pas tous les tomes, mais en tout cas les principaux. Kafka avait publié toute son œuvre en 1925. Et en 1922, il y a Ulysse de James Joyce, donc un roman irlandais de 1000 pages, qui est une réécriture moderne d'Ulysse qui se passe sur 24 heures, et qui sont trois œuvres qui, dans l'histoire littéraire du XXe siècle, passent pour être vraiment les trois œuvres qui ont marqué tout le siècle, en fait. Et donc je me suis dit, c'est intéressant, parce que le premier quart du XXe siècle, il y a eu vraiment des œuvres qui ont marqué tout le siècle. Est-ce qu'on peut dire pareil de notre siècle ? Donc j'avais quelques idées en tête, mais je me suis dit, ce serait intéressant de demander. Alors, j'ai parlé de cette idée à la chef du service des livres, qui a été très emballée. On a fait une réunion avec la chef du service des livres, la directrice de Télérama, qui immédiatement a dit, mais c'est une super idée, franchement, on y va à fond, vas-y, etc. Donc là, je me suis retrouvé avec la pression de devoir le réaliser et de devoir concrétiser cette idée, qui était quand même un peu écrasante, parce qu'en gros, concrètement, je me suis dit, pour déterminer ces livres... où l'idée, c'était vraiment d'avoir un critère littéraire. C'est-à-dire, le but, c'était pas forcément de donner des best-sellers, mais dire quels sont les livres qui marqueront l'histoire littéraire. Ulysse de Joyce est un livre de 1000 pages que la plupart des gens qui commencent ne finissent pas. Enfin, c'est vraiment considéré comme un des livres les plus durs à lire de l'histoire de la littérature. Donc il est très peu lu. Enfin, c'est plus un classique qu'un best-seller. Donc l'idée, c'était plus de dégager des livres comme ça, des livres qui comptent parce que leur forme, parce que le moment où ils interviennent a une importance dans l'histoire littéraire. Et donc pour ça, mon idée, c'était quand même de demander à un jury qui soit quand même exigeant et assez pointu et assez gros lecteur. Et donc l'idée que j'ai eue, c'était de me dire, il faudrait demander un peu à chaque secteur un peu du monde des livres. Et je me suis arrêté sur le chiffre de 60. Et donc il y a eu, avec l'idée de demander, alors là j'ai la liste en particulier, donc peut-être d'ailleurs je vais mettre la couverture du Télérama qui était sorti. Voilà, c'était le Télérama je crois que c'était 2 avril. Donc j'ai demandé à... Toc, c'est là. 10 écrivains francophones. Alors francophones parce que, par exemple, le prix Goncourt de 2021, Mohamed Mbougarsar est sénégalais de nationalité, mais bon, il se rapproche plus de la littérature française que d'autres choses, donc c'est pour ça qu'on dit francophone. Où il y a Ananda Devi, qui est une autrice mauricienne, et qui donc auteur francophone au sens large, 10 écrivains non francophones, 10 éditeurs français, mais j'ai essayé de prendre des éditeurs français qui avaient aussi une appétence pour la littérature internationale, parce que l'idée c'était que le classement soit pas trop franco-centré, même si évidemment si le classement avait été fait en Australie, ça aurait pas été le même résultat, ou en Chine, mais l'idée c'était d'avoir des éditeurs qui aient vraiment aussi un regard international. 5 éditeurs internationaux, j'ai un éditeur algérien, une éditrice espagnole, italien, États-Unis et Japon. 5 critiques universitaires, par exemple William Marx, qui est le professeur de littérature au Collège de France. Donc là, des critiques, mais qui, eux, sont professeurs d'université. 10 traducteurs, parce que les traducteurs sont souvent des excellents lecteurs. Ils lisent beaucoup et ils sont assez spécialistes aussi de forcément la langue dans laquelle ils traduisent. Et 10 libraires, un peu partout en France, de Lorient à Clermont-Ferrand, à Toulouse, à Besançon. Voilà. Et donc, en fait, l'idée... Ce que j'ai concrètement fait entre globalement décembre et le mois de février, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à envoyer beaucoup de mails. Mais ça a été de avec ce chiffre-là, d'essayer d'avoir 10 auteurs français, 10 auteurs francophones, 10 éditeurs, etc., etc. Et c'est d'envoyer des mails à ces personnes et de leur demander quels sont, à vos yeux, les 5 livres. Je leur ai demandé d'en garder 5, enfin d'en désigner 5, sans se justifier, simplement me donnant une liste de 1 à 5 en les hiérarchisant, qui marquent le premier quart du 21e siècle. Voilà. Et donc, en fait, c'est à partir de toutes ces réponses-là on a pu établir... on les rassemble en toutes, et en fait, simplement en faisant un comptage, en disant combien de fois tel roman revient, etc., etc. Et donc, ça a donné un comptage. Alors, c'est la directrice de Télérama qui a eu l'idée de garder 25 livres. Ce qui me semble un très bon chiffre, parce que 25 c'est beaucoup et pas beaucoup, enfin c'est une liste de lecture qui est quand même sachant qu'en fait sur le créneau, une fois que je l'ai fait, j'ai vu que le New York Times l'avait fait, les 100 plus grands livres du 21e siècle, eux c'était 100 et leur classement a été critiqué aux quatre coins du monde, parce qu'en gros sur les 100 il y a 90 anglophones et ça n'a vraiment pas de sens quoi. Je me souviens plus le détail de résultat, mais vraiment il y a des œuvres. Par exemple, je sais qu'il y avait Elena Ferrante dans les 5 ou 10 premiers, qui est évidemment un énorme best-seller, mais on ne peut pas dire que Elena Ferrante soit une innovation majeure dans l'histoire de la littérature. Quoi. Mais donc voilà, donc c'est un classement qui a été très critiqué, mais qui a été surtout critiqué aux quatre coins du monde pour son anglo-centrisme, en fait, parce qu'il a globalement donné des réponses anglaises. Quoi. Et donc l'idée pour moi c'était vraiment d'éviter ça en demandant au plus, il y a un écrivain indien qui m'a répondu, un chinois, des traducteurs de tamoul, d'espagnol, d'hébreu, etc. pour éviter vraiment cet effet-là. Donc ça c'est le Télérama qui est sorti, donc ça a été la couverture du 2 avril, encore une fois je crois que c'était le 2 avril. Alors il y a eu plusieurs essais de couverture parce qu'ils se demandaient, donc ils sont allés chercher tous les livres originaux, ils ont demandé aux éditeurs pour faire cette fois-là, il y a eu plusieurs débats sur la couverture. Et peut-être pour vous partager donc qui est arrivé en premier. Là, il y a les 5 premiers. Alors le premier, c'est 2666 de Roberto Bolaño, alors qui est très 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 largement en tête. C'est-à-dire qu'un tiers des 60 répondants m'a donné 2666 de Roberto Bolaño, qui est un livre pour en dire deux mots, qui est paru en 2004. Alors moi, je m'attendais, à vrai dire, avant de faire le palmarès, puis même en discutant avec la chef du service des livres, moi-même, je pensais que voilà, c'était peut-être, c'était un des livres qui m'apparaissait comme de façon évidente, mais vraiment, il y a un tiers des personnes qui m'ont répondu qui l'ont cité. Alors Roberto Bolaño, c'est un auteur chilien qui est mort en 2003, et c'est un livre qui est paru après sa mort. C'est un livre qui fait à peu près 1000 pages. Alors il y a beaucoup de livres qui font 1000 pages dans les résultats, ce qui est un des signes aussi de l'époque, c'est-à-dire que c'est dans une époque où il y a des romans totaux, et ces romans absolus sont aussi absolus un peu dans leur forme et dans leur taille en fait. Et donc 2166 raconte, en fait ça devait être 5 livres à la base qui ont été réunis dans un seul, donc il y a 5 grandes parties. Une sorte de quête qui au départ le premier des 5 livres, c'est plusieurs critiques universitaires qui sont passionnés par un auteur allemand qui a disparu qui s'appelle Benno von Archimboldi et qui en fait vont se lancer un peu à la recherche de cet auteur mythique qui a complètement disparu. Et donc en fait, en gros, le roman trace sur 1000 pages une histoire, bon, que je résume très très rapidement, mais c'est un roman extrêmement labyrinthique qui part dans plein de directions. Mais c'est à la fois la quête de cet auteur qui est lié à l'histoire du nazisme, et c'est à la fois un roman qui se situe dans ce que Roberto Bolaño pense comme être l'épicentre du mal de notre époque, qui est Ciudad Juárez au Mexique, où il y a eu énormément de féminicides dans les années 90. Et en fait, le roman avance petit à petit vers cette espèce d'orbite du mal, en fait, qui est cette zone frontalière entre le Mexique et les États-Unis, où, ça c'est réel, hein, je veux dire, c'est documenté, dans les années 90, il y a eu des centaines de femmes qui ont été tuées, frappées, torturées et abattues. Et donc, en fait, Roberto Bolaño, lui, comme écrivain, prend cette chose-là qui est très physique, très matérielle, et il en fait quelque chose de métaphysique, de philosophique. En fait, pour lui, ça incarne cet endroit-là, le mal de l'être humain. Voilà, donc c'est un roman extrêmement puissant qui est tellement un roman absolu et qui est tellement aujourd'hui canonisé, c'est-à-dire qu'il apparaît vraiment aujourd'hui comme un vraiment très grand livre des 30 dernières années, que ça m'étonnait pas qu'il arrive en tête. Le deuxième, alors voilà, donc en fait ça c'est en visuel, c'est le dossier que j'ai écrit, donc ça c'est les articles que j'ai écrits à partir de. Donc, bon, l'idée c'est pas forcément de vous lire le détail, mais c'est que vous, c'est un peu d'illustrer, donc ça c'est Roberto Bolaño, que vous voyez là en dessin. Le deuxième, c'est un livre qui s'appelle Austerlitz. Alors, je vais détailler peut-être les 4-5 premiers, puis après, je passerai sur les autres. Austerlitz de Sebald, qui est un livre aussi qui date du début des années 2000. Sebald, il a écrit 4 ou 5 livres. En fait, Sebald, c'est typiquement un auteur qui ne serait jamais apparu dans un classement de best-seller, parce qu'en fait, Sebald, globalement, c'est un auteur un peu... Enfin voilà, que surtout les lecteurs un peu pointus connaissent, parce qu'il est mort au début des années 2000, après 4 livres remarqués. En fait, Sebald, c'est quelqu'un qui tisse des romans de façon très mystérieuse. C'est quelqu'un qui est hanté par le nazisme et le mal. Il est lui-même allemand, il a fui l'Allemagne, où il est né après-guerre. Il n'a pas connu l'Allemagne, mais il a vécu en Angleterre, tellement pour lui, la culpabilité des crimes nazis était énorme. Et en fait, là, c'est l'histoire d'un homme qui rencontre son ancien professeur, et c'est un homme qui s'appelle Austerlitz, et qui, en fait... erre un peu à travers l'Europe et à travers Paris notamment, un peu hanté par les grands maux du XXe siècle, la Shoah en particulier. Et en fait, Sebald, là où il est extrêmement reconnu et vu comme quelqu'un d'innovant, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui mélange plein de trames, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des extraits de journaux dans ses livres. Il y a aussi beaucoup d'images, en fait. C'est quelqu'un qui a vraiment créé un genre à part, où en fait, au milieu du texte, il y a des images. Bah, comme, je ne sais pas si vous voyez la couverture du livre, donc qui est paru chez Actes Sud. Alors, ah oui, peut-être juste une précision. La condition que je disais aux personnes qui ont répondu, c'est qu'il fallait que le livre soit paru à partir de l'année 2000 en langue originale. Voilà, ce qui fait que ce n'était pas en langue de traduction, que c'était la seule condition pour que le livre puisse être nommé. Sachant que sur la définition du roman, je l'ai laissé ouvert parce que l'idée, c'était aussi de voir qu'est-ce qui était vu comme un roman selon les gens et qu'est-ce qui apparaissait comme étant un roman. Et Austerlitz, c'est typiquement quelque chose qui a la lisière. Ce n'est pas un roman de fiction, mais c'est une mise en romanesque du XXe siècle. Et en fait, vous voyez cette image un peu bizarre, en fait, de la couverture d'Austerlitz. C'est une image qui, en fait, apparaît à un moment, qui a été prise par Sebald lui-même, d'ailleurs, je crois, qui apparaît dans le livre. Et en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est là, cette image. Et en fait, les livres de Sebald sont extrêmement mystérieux, parce qu'à chaque fois, il y a il parle de choses, et puis il y a une photo de telle chose qui a l'air un peu en lien, mais jamais totalement, elles ne sont jamais légendées. Et voilà, donc il y a une espèce de halo un peu magnétique, en fait. Voilà. Et donc c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est un auteur qui est mort dans un accident de voiture quelques mois après avoir écrit ce livre. Tu avais une cinquantaine d'années, et voilà. Mais dans les années 90, il était vraiment vu comme quelqu'un qui aurait un jour le prix Nobel, qui est la distinction suprême, donc. Voilà. Le troisième, c'est un livre très intéressant, alors qu'il là justement questionne la question du roman, parce qu'en fait c'est pas vraiment un roman. La fin de l'homme rouge, c'est Svetlana Alexievitch qui a été prix Nobel, alors l'année m'échappe, mais ça doit être quelque chose comme 2016 ou 2015, qui est une Biélorusse et qui est en fait une autrice qui a commencé par le journalisme et qui en fait là recueille, en fait se fonde, c'est ce qu'on appelle une littérature du réel, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur une collecte de témoignages et de dizaines et de dizaines de témoignages qui, là, en l'occurrence, ont été récoltés dans tout ce qui était l'URSS. Et donc, La fin de l'homme rouge, ben, comme son nom l'indique, c'est un livre qui tisse tout un tas de voix. Alors, le travail littéraire, c'est pas que du journalisme, parce qu'en fait, le travail littéraire, c'est d'assembler ces témoignages et d'en faire une matière très poétique. D'ailleurs, elle a des noms de chapitres qui sont aussi très poétiques. Donc, il y a vraiment une aura littéraire dans ce qu'elle fait. Et ça, c'est un livre qui fait à peu près 900 pages. Et qui est vraiment un témoignage de finalement ce qu'était l'homme rouge, l'homo sovieticus, qui a été une sorte d'homme nouveau du XXe siècle et qui doit affronter le XXIe en étant désuet, à côté et vivant dans un monde et dans des idéaux qui n'existent plus. Et c'est une œuvre très puissante et donc elle-même a reçu le prix Nobel il y a une dizaine d'années. Voilà, et donc ça a été le livre qui arrive en troisième position. Et puis après, je vais passer peut-être plus rapidement sur le quatrième et le cinquième, puisque. Donc en quatrième position, il y a Cormac McCarthy, La Route. Alors pour la petite histoire, c'est le plus vieux, dans les 25 romans qui sont sortis, c'est le plus vieux Cormac McCarthy, il avait à peu près 70 ans quand il l'a écrit. La Route, bah là c'est un livre qui est très connu notamment parce qu'il a été adapté au cinéma. Et c'est un livre qui raconte, c'est un livre qu'on appelle post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'il se situe, et qui est assez particulier dans son œuvre, parce qu'il est pas, enfin, c'est le seul livre qui est vraiment comme ça, très court, très à l'os, comme on dit, c'est-à-dire que c'est vraiment une description, il n'y a quasiment pas de... C'est clinique, quoi, vraiment. Et en fait, c'est un homme et son fils qui sont sur une route, dans un monde complètement ravagé, on ne sait pas de quoi, on imagine une apocalypse nucléaire ou autre, mais évidemment que Cormac McCarthy ne nous dit pas pourquoi le monde est ravagé. Et voilà, c'est une espèce de fable où on revient au primordial, c'est-à-dire... En fait, manger, dormir. Et ce qui est très puissant, en fait, c'est qu'il y a une forme mythique, c'est-à-dire qu'en fait, le père incarne une forme de désespoir, c'est-à-dire que le père de cet enfant, qui est appelé l'enfant, il n'a même pas de nom. Il est un peu globalement du côté pessimiste, et pour lui, la vie s'arrête, et l'enfant est sans arrêt en train d'espérer quelque chose. Donc, c'est un livre très puissant. Sur la façon dont il met à nu, et de la façon la plus primordiale possible, un principe finalement un peu de désespoir, en tout cas voilà, qui n'attend rien de plus, et un enfant qui espère toujours qu'il se passera quelque chose. La tâche de Philip Roth, c'est le cinquième. La tâche, c'est un livre qui est beaucoup plus classique, qui est beaucoup moins novateur, c'est un grand roman assez classique. Philip Roth, c'est un auteur américain qui est mort en 2018, je crois. Enfin, qui est mort il y a quelques années, en tout cas. Et dans La tâche, donc c'est toute une... Un grand thème de Roth, c'est un peu c'est un des grands thèmes de Roth, en fait, c'est l'identité et la façon dont finalement nos identités ne sont jamais exactement ce qu'on est. Et là, c'est toute une histoire, ça fait 400 ou 500 pages, autour d'un prof d'université qui, a une insulte présumée raciste, mais dont on découvre en fait que lui-même a des origines raciales plus troubles. Et en fait, il a été viré de son université pour une relation présumée avec une femme. En fait, il avait écrit ça juste après que Bill Clinton ait eu son affaire... justement d'adultère au début des années 2000. Voilà, donc c'est un des grands romans. Là aussi, c'est un roman du début des années 2000. Et après, donc pour passer très vite, donc, la première française, c'est Annie Arnaud, la sixième, Les années, donc, qui résume un peu de façon... de façon un peu collective, avec une espèce de jeu collectif, les 40 dernières années, un peu une vie moyenne dans les 40 dernières années en France. Les livres de Jacob d'Olga Tokarczuk, qui est le plus long livre, il fait 1300 pages, je crois, de toute la sélection. L'année de la pensée magique de Yoann Didion, qui est une américaine, qui est la grande autrice de ce qu'on appelle la non-fiction, c'est-à-dire, en fait, là, c'est un livre dans lequel elle raconte le deuil de son mari qui est mort de façon assez prématurée. L'adversaire d'Emmanuel Carrère, qui est un livre, là aussi, c'est la littérature du réel. où là il écrit sur Jean-Claude Roman, donc qui est cet homme qui a menti toute sa vie et qui a fini par assassiner toute sa famille parce qu'il faisait croire qu'il avait un métier de médecin à l'OMS et c'était faux. Et en fait, Carrère a fait une correspondance avec lui en prison et donc il tire ce livre de ça. Chimamanda Ngozi Adichie, c'est une Américaine d'origine nigérienne qui est un peu une des grandes auteurs, autrices de cette littérature-là. C'est autour de la question de l'intégration notamment. Le Lambeau de Philippe Lançon, qui est connu ici. Alors typiquement, ça c'est un livre, je pense, qui est ici parce que précisément le jury était quand même assez français, donc il n'aurait pas. Mais le Lambeau, donc, a été écrit par ce journaliste qui était au massacre de Charlie Hebdo et qui a fait ce récit. Il avait gagné le prix Renaudot d'ailleurs à l'époque. Solénoïde de Mircea Cărtărescu, dont je vous parlerai peut-être après parce que partie préférée. La Maison des Feuilles de Marc Danielewski, c'est un bouquin américain qui est extrêmement particulier parce qu'il casse complètement la forme littéraire, c'est-à-dire qu'en fait c'est un livre où à un moment vous avez le texte qui est écrit en carré. En fait, ça se passe dans une maison, enfin bref, c'est tout un truc dans une maison. Et en fait, le texte est complètement déstructuré, c'est-à-dire qu'il y a des pages sur lesquelles il n'y a qu'une lettre, d'autres où le texte est écrit comme sur un dessin, d'autres où il est écrit de forme carrée ou géométrique. Donc c'est un livre qui est très expérimental sur la forme, assez dur à lire pour cette raison, mais qui a vraiment innové aussi. Bon, Kafka sur le rivage de Murakami, le japonais, qui est des grands livres très connus de ces dernières années. La végétarienne Anne Kang, celle qui a eu le prix Nobel, c'est une sud-coréenne, elle a eu le prix Nobel l'année dernière de littérature. Et la végétarienne, c'est une femme qui veut se transformer, se dépouiller de son corps et en fait devenir une sorte de végétale. Après, il y a La fête au bouc de Margot Vargas Llosa, qui lui aussi a été prix Nobel. Eau de Mickey Vukonen, dont je vous parlais, qui est le livre qui m'a justement donné envie dont la lecture m'a donné envie de faire ce palmarès. Herta Müller, La bascule du souffle, qui est une prix Nobel aussi, qui est une Allemande. Là, c'est plutôt sur la Seconde Guerre mondiale. Et les derniers, c'est donc Colson Whitehead qui avait eu le prix Pulitzer. Là, c'est sur c'est un noir américain, donc c'est sur la question raciale et esclavagiste. Purge de Sophie Oksanen, c'est une Finlandaise, elle. Moi, Madame Bougarsar, elle a eu le prix Boncourt en 2021, donc j'imagine que vous avez peut-être entendu son nom. Et là, c'est un roman qui est très clairement inspiré de Roberto Bolaño, d'ailleurs, parce que le titre, c'est extrait d'un autre livre, l'autre grand livre de Roberto Bolaño qui s'appelle Les détectives sauvages. Et lui-même a toujours revendiqué une grande influence de Bolaño. Et d'ailleurs, même l'intrigue de son livre qui tourne autour d'un écrivain, en l'occurrence africain, qu'on recherche, en fait, et fait beaucoup penser à l'intrigue de 2666 dont je vous parlais tout à l'heure. Les Argonautes de Maggie Nelson, là, c'est pareil, c'est de la littérature du réel. C'est une écriture en fragments où elle raconte un peu sa vie, son accouchement notamment, et où elle y mêle des extraits de philosophie, de grands auteurs. Enfin, c'est une forme très hybride et qui est extrêmement moderne, où là, Maggie Nelson, c'est une des grandes autrices. C'est une autrice très connue du monde. C'est un peu une des figures de proue de la littérature queer, notamment, et LGBT. Neige d'Orhan Pamuk, donc lui aussi a été prix Nobel, c'est un Turc. C'est un grand roman, pareil, labyrinthique, assez complexe. Une histoire d'amour et ténèbres d'Amos Oz, qui est israélien, qui est décédé aujourd'hui, son autobiographie. Et le dernier, c'est Michel Houellebecq, donc La carte et le territoire, qui avait été son prix Goncourt en 2010. Et alors, évidemment, il y a plein de grands auteurs d'aujourd'hui qui n'y sont pas. Je pense à Paul Auster ou Laszlo Krasznahorkai qui vient d'avoir le prix Nobel, dont le livre peut-être qui aurait pu y être, c'est Guerre et guerre, mais en fait il était sorti en 99 en Hongrie, donc il y a un effet de date un peu bête, mais qui fait qu'il ne pouvait pas prétendre. Ou Kwedzi, qui est un auteur sud-africain qui avait le prix Nobel en 2002 et qu'à petit personnel j'adore. Voilà, et peut-être juste pour vous donner 2-3 chiffres un peu marrants alors, que j'avais noté. Télérama, ils ont calculé, il y a 12 646 pages si vous voulez tout lire. Le livre le plus volumineux, donc c'est les livres de Jacob d'Olga Tokarczuk, qui fait 1036 pages. La végétarienne de Anne Kang, c'est 206 pages, c'est le plus court. Donc il y a eu 9 femmes et 16 hommes. Il y a 18 auteurs vivants et 7 morts. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 7 morts, mais 4 de ces 7 morts sont dans les 5 premiers. La seule vivante des 5 premiers, c'est Alexievitch, donc la Biélorusse, qui écrit sur l'URSS. Il y a 15 nationalités et 12 langues. Donc là, pour le coup, j'étais assez content de ce résultat-là parce que ça montre que c'est vraiment un classement qui donne une image de la littérature mondiale et qui n'est pas uniquement franco-centré. Enfin voilà, même si il est inévitable qu'il y ait plus de romans français que si c'était un classement fait au Chili, encore une fois, ou au Japon. Mais en tout cas, je trouve que voilà, il y a quand même de l'hébreu, de l'espagnol, de l'allemand, du russe, du polonais, du roumain, du français, du japonais, du coréen, du finnois. Après, c'est l'anglais qui est majoritaire dans le palmarès. Mais à noter, il n'y a aucun britannique, même si c'est l'anglais qui est la langue qui revient le plus. Voilà. Et le plus jeune, c'est Mickey Yukonen, donc mon chouchou qui a écrit O, qui s'est suicidé à 33 ans, qui fait partie des 7 morts, mais qui est aussi le plus jeune. Il avait 28 ans quand il avait écrit ce livre, ce qui est quand même assez impressionnant quand on le lit. Et Bolaño, donc, qui arrive très largement en tête. Alors, les trois premiers arrivent largement en tête, mais Bolaño, c'est un tiers. Austerlitz, il était aussi assez largement détaché des autres. Il avait 53 ans, donc, juste quand il est mort avant l'apparition. Voilà, alors peut-être je vais vous donner 2-3 réponses de gens connus que j'ai eues. Alors, par exemple, Laila Slimani, qui était prix Goncourt, que j'imagine ici vous connaissez, parce qu'elle est quand même médiatique. Elle avait mis La fin de l'homme rouge en premier, La tâche de Philippe Roth en deux, et Americana de Ngozi Adichie en trois. Mohamed Mbougarsar, qui. Alors, il y a deux auteurs qui sont dans mes répondants et qui sont dans le classement. Mohamed Mbougarsar, qui m'avait cité 2666 de Roberto Bolaño, Solénoïde de Cărtărescu et O de Mickey Yukonen dans les trois premiers. Mircea Cărtărescu aussi, en fait, a répondu. Et je sais qu'il avait mis La fête au bouc de Margot Vargas Llosa en premier, qui est aussi dans le classement. Voilà, je crois que j'avais un autre. Neige Sino, que vous connaissez tous, qu'elle a écrit Triste Tigre, elle avait mis Harry Potter en premier. Et 2666 en deuxième. Et peut-être citer encore Mathias Sénard, qui a eu le prix Goncourt. Il avait mis 2666 en premier. Et en deux, Austerlitz. Donc il a eu le doublé gagnant. Voilà. Mais bon, au-delà de ça, évidemment, enfin, l'idée, c'est pas de sacraliser ce classement. C'est pas un classement qui veut dire que c'est. On voit qu'il y a beaucoup de livres du début du XXe siècle, du XXIe siècle. Évidemment, si on le fait dans 10 ans, il y aura des livres de ces dernières années qui ressortiraient. Parce qu'un chef-d'œuvre, il n'est pas un chef-d'œuvre en tombant du ciel. Il est un chef-d'œuvre aussi parce que il y a tout un tas de circuits qui les légitimisent, qui les consacrent. Et il y a des chefs-d'œuvre qui méritent d'être consacrés, mais il y a des chefs-d'œuvre qui ne sont pas consacrés et qui pourraient l'être. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit chef-d'œuvre. En fait, chef-d'œuvre, c'est pas que intrinsèque, c'est pas que la qualité du livre. C'est aussi en fait, le fait qu'il soit reconnu comme marquant quelque chose. Et Bolaño, par exemple, c'est intéressant parce qu'il est mort en 2003, donc il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, il est vraiment mythique. Enfin, Bolaño, globalement, c'est la grande mode. Quand vous êtes journaliste littéraire, vous avez je ne sais pas combien d'attachés de presse qui, dès qu'elle veut vous vendre, je dis elle, parce que c'est très souvent des femmes, un auteur inconnu sud-américain, elle vous dit c'est le nouveau Bolaño. Enfin, voilà, c'est devenu un argument marketing de dire être le nouveau Bolaño. Mais Bolaño, par exemple, a été vachement mis en avant par Mohamed Mbougarsar quand il a eu le Goncourt. Ses œuvres complètes sont parues en France vers 2020 aussi, chez aux éditions de l'Olivier. Donc tout ça pour vous dire que, alors lui, il n'a jamais eu prix Nobel puisqu'il est mort avant, mais en fait, ça dépend aussi de circuits, de légitimation. Et ce qu'on appelle chef-d'œuvre, ce n'est pas que la puissance de l'œuvre, c'est aussi parce qu'à un moment, il y a un milieu littéraire, etc., qui s'accorde à dire, bah oui, c'est vrai que cette œuvre-là marque quelque chose. Et un des bons indicateurs, c'est aussi combien d'écrivains se réclament d'eux. Aujourd'hui, il y a énormément d'écrivains qui se réclament de Bolaño, ou de Philip Roth, ou de Cormac McCarthy. Et ça, c'est un indicateur aussi de dire que ça, c'est une œuvre qui compte, en fait. Mais peut-être pour dire un mot, parce que comme l'heure tourne, de ce que ça donne comme image de la littérature contemporaine. Enfin, j'ai fait plusieurs articles aussi dans ce dossier-là, de façon plus large, en fait. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas de fétichiser. Et moi, je défends un rapport au grand livre qui n'est pas révérencieux. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, je ne les ai pas tous lus, loin de là. Et je défends le fait que vous puissiez lire 2166 et vous emmerder, ou je ne sais quoi, enfin, ou un autre livre de la liste. Et je pense que justement, en fait, une grande œuvre, elle l'oblige à être intelligent, parce que faut quand même, si on veut démonter Sebald ou Philippe Roth, faut quand même réfléchir. Mais je pense que voilà, c'est aussi nécessaire d'avoir ce rapport très vivant aux œuvres. Et en fait, dégager un palmarès comme ça, pour moi, c'était aussi un moyen de dire, voilà les livres qui semblent compter pour voilà, un panel de gens que j'interrogeais. Mais le débat est ouvert. Et en fait, ces livres-là, encore une fois, dans 10 ans, ne seront peut-être pas exactement les mêmes. Voilà, je pense que les 4-5 premiers, on peut dire qu'ils marqueront quelque chose. Mais Le Lambeau de Philippe Lançon, je ne suis pas sûr que dans 10 ans, ils y soient encore, même si c'est un très beau livre, très grand livre. Et peut-être les deux choses que ça marque en fait sur la forme du roman dont je parlais au tout début, c'est que il y a clairement deux grands modèles dans ce palmarès là, deux grands modèles littéraires en fait. Donc encore une fois, dans le dossier Télérama, j'ai fait plusieurs articles un peu plus synthétiques qui évoquent ces sujets là. La première chose, alors c'est William Marx notamment du Collège de France que j'ai interrogé là-dessus pour savoir ce qu'il pensait du... Alors lui-même a participé d'ailleurs comme répondant, mais après je l'ai interrogé en disant bah, qu'est-ce que vous dites de ce résultat. Et globalement, les deux grandes directions que ça donne du roman, c'est intéressant parce qu'elles sont assez opposées en fait et complémentaires. La première, c'est la victoire de... que soit 2866, que soit Mohamed Abougarsar, que soit Mircea Cătărescu et Solenoïde, c'est la victoire d'une forme littéraire qui est celle du labyrinthe. C'est-à-dire l'idée que, en fait, le livre, c'est pas forcément... et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau au XIXe siècle, ça n'existe pas vraiment, cette idée-là. Le livre, c'est pas forcément une narration de A à Z. Le livre, c'est un espèce d'endroit où on peut se perdre, un endroit où, en fait, à un moment, on est sur un côté, puis on revient, puis en fait, on est dans une impasse. Et en termes de construction, c'est une forme extrêmement moderne, la forme labyrinthique, qui émerge tout au long du XXe siècle. Un précurseur de ça, c'est Proust, où le labyrinthe, c'est le labyrinthe du psychisme du narrateur, parce que La Recherche Temps Perdu, c'est 2500 pages dans la tête de quelqu'un qui n'arrive pas à s'endormir. C'est Joyce aussi, c'est 1000 pages où on se perd dans, enfin où on plonge dans une journée de 24 heures qui fait 1000 pages, et en fait, à travers ces 24 heures, il brosse tous les genres littéraires possibles, le monologue, la tragédie, etc., etc. Et donc en fait, tout ça, enfin c'était les débuts, mais ça a évolué. Et Kafka, évidemment, c'est le labyrinthe métaphysique, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une sensation de suffocation, parce que chez Kafka, on est toujours en prise avec l'absurde de la justice notamment, l'absurde de la condition humaine. En fait, tout ça, on va dire, au fur et à mesure du XXe siècle, mature, et des auteurs de la fin du XXe siècle ont été très importants, comme Borges, l'Argentin, dont hérite Bolaño, ou Umberto Eco, par exemple, en italien. Voilà, et donc ça, c'est vraiment la forme de ça, et c'est vraiment... Alors, j'ai bien aimé, parce que William Marx me disait, en fait, c'est un peu... il me disait ce palmarès, mais montre vraiment qu'il y a une forme qu'incarne 2566 et d'autres dont je vous parlais. C'est une conception qui remonte à Don Quichotte de Cervantes. Donc, il y a tout un débat là-dessus, mais Don Quichotte de Cervantes est vu comme le premier grand roman de l'histoire de la littérature. Où en gros, c'est le réel qui est mis au service de la littérature. Et d'ailleurs, c'est souvent des intrigues qui tournent autour de la littérature, ce qu'on appelle métalittéraire. Et en fait, la littérature, c'est finalement le centre de tout, en fait, comme dans 2666, où c'est cet écrivain caché qui a un rapport au nazisme, à travers lequel on traite la question du mal. Donc ça, c'est vraiment une veine qui est extrêmement puissante, qui se retrouve dans beaucoup de livres. Et par ailleurs, l'autre grand sillon, c'est la littérature du réel. Notamment Annie Arnaud est caractéristique de ça, Svetlana Alexievitch, qui est tissée à partir de témoignages du réel, et où là, pour le coup, c'est le rapport inverse. En fait, c'est plus le réel qui est mis au service de la littérature, et où on dit, finalement, le réel qui nous entoure n'a pas grand sens. La littérature montre qu'en fait, le réel est une forme d'illusion qu'on peut dépasser parce que, pour tout un tas de raisons, et qu'on peut dépasser par la création. Dans cette veine-là, c'est plutôt, encore une fois, Annie Arnaud, Emmanuel Carrère. D'ailleurs, en France, c'est un peu la forme qui triomphe. C'est l'idée que la littérature se met au service du réel, se met au service de la description du transfuge de classe, par exemple, chez Annie Arnaud. C'est son grand thème. Se met au service de la condition historique en ex-URSS, par exemple, chez Alexievitch. Et donc, on voit vraiment que, et ça sert aussi à dénoncer le réel, dénoncer les injustices, et on voit vraiment que finalement ce que triomphe, c'est des formes avec souvent des très gros livres, mais finalement dans deux façons d'envisager la littérature, encore une fois, la littérature qui s'impose au réel, c'est plutôt 2166, ou c'est la littérature mise au service du réel et de parfois des injustices ou d'autres causes. Voilà, donc je pense que c'est un peu les deux choses que ça permet de dégager, ce palmarès, qui me semble intéressant en fait, pour comprendre un peu où on en est dans l'histoire littéraire, dans l'histoire du roman. Alors là-dedans, je vais passer vite, parce que finalement le temps passe vite, mais la littérature française, en deux mots, quid de la littérature française? Alors, il y a plusieurs livres français, notamment aidés par le fait qu'évidemment, il y a plus de Français qui ont répondu. Alors, il n'y a pas Modiano qui est prix Nobel, notamment, il n'y a pas Pierre Michon, qui est un très grand auteur, pour les lycéens, je ne sais pas si vous connaissez le nom, mais Pierre Michon est vu comme un des grands auteurs français aujourd'hui, il n'y est pas... Et alors, un universitaire que j'interrogeais me disait, en fait, ça confirme le fait que la première française, donc c'est Annie Arnaud, qui est sixième avec Les Années. Alors après, il y a le cas aussi, comme Modiano, où les plus grands livres sont plutôt au XXe siècle et pas au XXIe, donc c'est aussi ce qui explique parfois ce résultat. Mais cet universitaire me disait, la France, c'est une grande puissance moyenne. Alors, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait dit ça de la France dans les années 70. Mais je trouve ça pas mal, en fait, de dire en littérature, finalement, la France, c'est le pays qui compte le plus de prix Nobel. Bon, sachant que le début, les prix Nobel, on se les distribuait à trois pays et que la France, globalement, enfin voilà, si on enlève les prix Nobel du début, la France serait pas forcément en tête, mais la France a eu quand même trois prix Nobel au XXIe siècle, ce qui est énorme, le Clésio, Modiano et Arnaud. Pour des œuvres dont, à titre personnel, je suis pas certaine qu'elle vaille plus le Nobel que d'autres étrangères, mais en tout cas, c'est une nation qui apparaît quand même toujours en haut. Mais, comment dire, on voit quand même que c'est pas en France que se produisent les œuvres les plus puissantes, telles que celles de Bolaño, telles que celles de Mikki Lukkonen que je citais. C'est pas le pays où aujourd'hui se produisent les œuvres d'imagination ou les œuvres où le roman vraiment s'en réinvente. Enfin, en tout cas, c'est mon constat, c'est un peu le constat aussi des universitaires que j'ai interrogés là-dessus. Et donc, peut-être, je donne mes trois préférés. Enfin, il y en a plein que j'aime beaucoup, mais peut-être trois livres que j'adore. Alors, O, évidemment, dont j'ai parlé au début, écrit par ce Finlandais qui s'est suicidé à 33 ans, qui s'appelle Mikki Lukkonen. O, pour vous le dire en deux mots, c'est un livre qui fait 900 pages. En gros, c'est un livre qui se passe sur 7 jours. Dans ces 7 jours, il y a 100 personnages et chaque personnage a une névrose. Il y en a un, il a une névrose, il ne supporte pas les verres ronds, par exemple les lunettes. Il y en a un, tout un tas de névroses. Il y en a un, il couvre sa chambre de post-it avec écrit des choses. Il y en a un, il est toujours obligé d'être à côté de toilette parce qu'il a envie d'aller aux toilettes. Enfin, voilà, chaque personnage a une névrose. Et en fait, c'est un livre extraordinaire parce que c'est un livre qui se passe avec plusieurs réseaux narratifs, qui est assez labyrinthique aussi, qui est extrêmement drôle. Et voilà, qui vraiment en fait, raconte le haut, qui est le titre, c'est le cercle. C'est un peu l'idée que, en fait, on est un peu enfermé dans une espèce de cercle un peu infernal dans la condition humaine et qu'en fait, une forme de vie absurde. Et en fait, c'est vraiment un roman sur l'ère d'Internet où, en fait, nos vies doublées par nos vies numériques, nos vies sur les réseaux sociaux, en fait, nous dépassent un peu. On est sous l'afflux d'informations qui rendent nos vies complètement insensées et qui provoquent une espèce d'ère de névrose généralisée. C'est un peu ça le propos au fond du livre. Et c'est un livre à la fois très drôle, très puissant et un peu tragique aussi, puisque bon, le personnage et l'auteur donc s'est suicidé. Il y a La fête au bouc de Mario Vargas Llosa, qui est un très grand livre politique qui mêle plusieurs intrigues. Mario Vargas Llosa, donc, qui est péruvien, il est mort il y a quelques mois, il a été prix Nobel en 2010. Et La fête au bouc, ça mêle plusieurs intrigues, ça raconte la fin de la dictature en République dominicaine de Trujillo, je crois que c'est dans les années 50. Et c'est un roman qui fait 500 ou 600 pages, c'est un très grand roman sur ce que c'est la fin d'un régime, la fin d'une dictature, le début d'une transition vers un autre régime, et il y a plusieurs intrigues mêlées, et c'est un roman extrêmement puissant, mais je ne m'attarde pas dessus parce qu'il est déjà tard. Et le dernier que j'aimerais parler, parce que c'est un peu mon chouchou, je pense que c'est peut-être mon auteur préféré de la littérature d'aujourd'hui, c'est un roumain qui s'appelle Mircea Cărtărescu, alors qui est aussi vu comme quelqu'un qui est un des candidats favoris au prix Nobel dans les années à venir. Et ce roman, Solénoïde, c'est un roman qui fait 900 pages encore. Et c'est l'histoire d'un jeune homme en fait, qui est professeur dans un lycée à Bucarest et qui en fait, écrit des poèmes à 20 ans. Et comme beaucoup de gens qui écrivent des poèmes à 20 ans, c'est pas très bon, c'est un peu lyrique, c'est un peu. Voilà. Et en fait, il va lire ses poèmes devant le cénacle, un peu, ou le cénacle autorisé de Bucarest. Et en fait, on se moque de lui. Et donc il en tire une espèce d'humiliation existentielle, c'est une honte pour lui parce qu'en fait il attendait d'être adoubé par ce cercle autorisé et en fait pour lui c'est un drame absolu. Et en fait il décide d'arrêter d'écrire, de ne jamais plus publier dans sa vie et de tenir un journal dans lequel il va ni plus ni moins que chercher à percer le secret du mystère de l'existence. Et en fait, c'est un livre qui est extrêmement puissant. Enfin, moi j'adore, après c'est à titre personnel, j'adore les livres qui creusent une intériorité de personnage. Et c'est un livre qui est extrêmement puissant parce qu'en fait, à la fois, il fait le tour de la solitude de cet homme qui, en fait, est professeur de français, je crois, dans un établissement à Bucarest, mais qui, en fait, va essayer de comprendre ce qu'est le mystère de l'existence en traversant tous les champs de la connaissance. Et Mircea Cărtărescu, et ça, je pense que c'est important de le dire, c'est pour ça aussi que je voulais en parler, c'est un auteur qui, en fait, lit beaucoup de littérature, mais également lit de la physique quantique, lit des mathématiques, etc. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est là où je disais que le roman absorbait aussi beaucoup de disciplines, en fait, externes, pour donner une sorte d'art total. Bah, Cărtărescu, c'est un très grand exemple de ça. C'est-à-dire que Cărtărescu, il peut vous faire trois pages sur, je sais pas, le mathématicien Yorg Cantor et sa théorie sur l'infini. Il peut vous faire trois pages sur l'algèbre de Boole en mathématiques. Et en fait, c'est un roman qui vraiment traverse tous les champs de la connaissance à travers un cerveau humain. Et cette ambition de totalité-là, je la trouve assez fascinante, sachant que Cărtărescu a une langue très très poétique et très crue en même temps. Donc c'est vraiment une expérience de lecture et à la fois c'est une expérience aussi existentielle, et on a vraiment l'impression, quand on sort de ce livre-là, qu'on a été enfermé dans la tête de quelqu'un, et en même temps qu'on a traversé tout ce qu'on pouvait connaître de la nature humaine, des connaissances produites. Voilà, et Carterescu, c'est vraiment très très grand auteur. Voilà, et donc, peut-être pour terminer là-dessus, avant de dire un mot sur justement ce que c'est aussi écrire et cette activité-là que j'ai, moi, comme je vous dis, ce palmarès, il vise à donner une photo, une image, c'est comme on dit dans les sondages en politique, oui, ce n'est qu'une photo de l'élection à venir, ben là, c'est un peu pareil. C'est une photo qui est imparfaite et qui vise juste à dire, ben voilà, peut-être que s'il y a certains livres intéressants, ben voilà, on peut les discuter, mais en tout cas, c'est ces livres-là qui peuvent être intéressants à discuter et qui disent quelque chose de ce qui se passe dans l'évolution de la littérature. C'est pour ça que, comme je disais, je défends un rapport non révérencieux aux grandes œuvres, tout en étant capable de distinguer effectivement ce qui est un chef-d'œuvre d'un livre qu'on a aimé. Moi, il y a des chefs-d'œuvre que je n'aime pas forcément, mais je reconnais quand même qu'ils ont compté. Et ce n'est pas exactement la même notion. Voilà, donc ce n'est pas seulement un livre qu'on a aimé, c'est un livre qui compte. Et aussi, l'autre chose, je pense, qui est importante, c'est que ça va. Enfin, l'idée, c'est d'aller aussi contre une certaine idée un peu décliniste où on dit parfois, oui, les grandes œuvres, c'est le 19e siècle, Dostoïevski, Balzac, etc. Bah, c'est vrai que c'était des très grandes œuvres. Mais en 2025, on n'écrit pas comme en 1925 ou en 1825. Et je pense que quand on voit le résultat de ce palmarès, on ne peut pas dire qu'il y a un déclin de la littérature. Je pense que les œuvres qui sont là-dedans sont du niveau des œuvres qu'il y avait un siècle plus tôt, voire deux siècles plus tôt. Alors chacune a correspondu à une époque, à un moment, mais je pense que voilà, cette initiative que j'ai eue là, et puis le résultat que ça a donné, montre qu'en fait, la littérature crée toujours, en fait, et qu'il n'y a pas une fin de la littérature. En fait, il y a toujours des grands créateurs, et évidemment, il y a des milliers de livres qui sortent chaque année, des milliers de livres moyens, mauvais ou intéressants, mais que parmi les plus puissants, en fait, ils sont ni moins bons ni meilleurs que ceux d'il y a un siècle. Voilà, et tout ça, bon, peut-être pour dire un dernier mot sur moi-même, mon activité d'écriture, puisque l'idée c'était peut-être d'en dire un mot aussi. Évidemment, être journaliste littéraire, moi ça me nourrit pour écrire. Bon, c'est pas exactement la même écriture, évidemment. Ces lectures de grands livres me nourrissent aussi, forcément, car Carterescu repousse les frontières de ce qu'on pense possible dans l'écriture. Et peut-être, comme pour le journalisme littéraire, vous dire en deux mots concrètement, ça veut dire quoi écrire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être très matériel, en fait, parce que c'est toujours très abstrait. Je pense aux lycéens qui sont là, où c'est un peu des grands mots parfois. Bah, écrire, moi, comme j'ai une activité à côté, je ne fais pas que ça, donc comme je suis journaliste, moi, je me réveille tous les matins et la première chose que je fais, c'est que je prends mon ordinateur et j'écris une heure dans mon lit. Et le roman que j'ai publié l'année dernière a été écrit quasiment intégralement dans mon lit. Voilà. Bon, sauf la relecture, évidemment, mais en tout cas, l'écriture pure, moi, c'est tous les matins, une heure, je suis... Voilà. Y a un peu les auteurs qui aiment bien faire une journée d'affilée, et moi, j'arrive... Enfin, une heure, ça me va, et chaque jour, je fais un petit peu, et voilà, les petits cours d'eau font les grandes rivières à un moment. Voilà. Mais en tout cas, il y a un peu deux sortes d'auteurs. Il y a ceux qui écrivent beaucoup et qui ont besoin vraiment d'avoir 10 heures d'affilée, mais moi, ça me demande une concentration telle qu'en fait, une heure, voilà, je fais une heure au lever, c'est quand je suis frais aussi pour faire ça. Et voilà, et en fait, moi, voilà, quand on est très loin de la notoriété des Bolaño et des prix Nobel, en fait, écrire concrètement, c'est déjà écrire pour soi avant tout. C'est écrire parce qu'on a le besoin, au-delà de la publication et autres. Voilà, donc savoir une activité d'écriture et savoir aussi peut-être un projet. En tout cas, moi, c'était un projet romanesque avant d'être publié pour Les Présences Imparfaites. Voilà, qui a été cité au début, qui est le premier roman que j'ai publié l'année dernière. J'avais déjà écrit un premier roman. J'ai écrit pendant 7 ans tout seul dans mon coin avant qu'un premier livre soit publié. Et en fait, le premier livre que j'ai écrit, j'ai passé 3 ans dessus. Je l'ai proposé à plusieurs éditeurs, je sais pas, 10 ou 12 éditeurs, et ils l'ont tous refusé. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et il avait ses défauts, comme souvent le premier roman, en fait, vous... On met aussi beaucoup de choses qu'il faut enlever pour aller plus loin. Mais voilà, l'écriture, c'est avant tout de la patience, de l'abnégation. Évidemment, quand on écrit, il y a une marge qui est énorme, c'est la publication. Pour vous donner un ordre d'idée, tout à l'heure, je parlais des chiffres des livres publiés. Un éditeur, je ne sais pas, mon éditeur Rivage, donc qui fait partie du groupe Actes Sud, doit recevoir peut-être 5000 manuscrits chaque année de gens qui envoient leurs manuscrits de romans à l'éditeur. Et sur les 5000, il y en a 2 ou 3 qui sont publiés. Donc la marge déjà, en fait, pour atteindre la publication est extrêmement difficile. Voilà. Bon, une fois que vous êtes publié, après vous vous retrouvez avec 500 autres romans qui ont aussi été dans les 2 sur 6000. Et voilà, donc c'est vrai que quand on écrit, il faut d'abord savoir pourquoi on écrit, parce que si on est très très loin d'être sûr d'être publié. Bon, encore une fois, il m'a fallu un premier roman qui n'a pas été publié pour faire quelque chose qui en tout cas méritait de l'être. Voilà, et à l'époque, j'avais présenté à plusieurs éditeurs et l'éditrice qui j'ai signé un contrat avait beaucoup apprécié. Bon, au point où elle a décidé de le programmer en rentrée littéraire, ce qui était une marque de confiance de leur part, où en général, la maison d'édition dans laquelle je suis ne publie pas beaucoup de livres en même temps pour pouvoir les soutenir. Et souvent une stratégie de publier un premier roman parce que c'est une case qui est très repérée en général dans le monde littéraire, les premiers romans, on aime bien ça. Donc moi j'étais le premier roman de l'année dernière, le roman plus confirmé c'était celui de Miguel Bonnefoy, Le rêve du jaguar, qui a été finalement grand prix du roman de l'Académie française et prix Femina, donc il a vraiment fait un carton. Et ce roman, justement Les présences imparfaites cherche aussi à faire une forme de récapitulatif, puisqu'en fait c'est ce que je raconte, c'est l'histoire d'un homme qui arrive quasiment à 60 ans et qui en fait se retourne sur sa vie parce qu'il fait un constat d'échec au tout début du livre. Il fait un constat d'échec en disant j'ai réussi ma vie socialement. Alors il a été journaliste au Figaro où je ne travaille pas du tout. Il a été grand reporter international, etc. Et il dit j'ai réussi ma vie finalement, mais en fait je sens que j'ai raté quelque chose. Ça c'est dès le début du livre. Et en fait on traverse à travers cet homme 40 ans à peu près, des années 80 aux années 2010. Avec l'idée qu'en fait c'est un homme qui a vécu avec une forme d'insatisfaction dès le départ, parce qu'en fait il vient de la classe moyenne, bon, comme moi, même si on n'a pas du tout du même endroit, parce que lui il vient de Thiers en banlieue parisienne. Et il dit dès le début en fait j'étais dans un milieu où il ne se passait rien, et en gros c'est quelqu'un qui est obsédé. Enfin, ce qui m'intéressait c'était de mettre un personnage aux prises avec une quête d'intensité qui venait d'une classe moyenne où il ne se passait rien, où il se disait finalement... j'ai même pas la chance de vivre des grandes tragédies pour être au moins malheureux et avoir l'impression que ma vie est un peu tragique. Et donc c'est un personnage qui va être sans arrêt en quête de ce tragique-là, à travers le journalisme, à travers l'écriture, à travers le fait de parcourir la société et le monde, et qui finalement traverse un peu le monde et traverse l'époque, mais finalement reste dans ce rapport peut-être d'insatisfaction. L'idée c'est de dévoiler un peu au fur et à mesure du roman les raisons qui font qu'il fait ce constat-là. Et c'était l'idée pour moi de creuser un des thèmes qui m'est cher, c'est celui de l'attente, parce qu'en disant en fait c'est un personnage qui est marqué par l'attente. Il y a des grands livres dans le XXe siècle qui sont des livres sur l'attente, En attendant Godot évidemment de Beckett, où on passe toute une pièce de théâtre à pas savoir qui va arriver, En attendant Godot, parce que Godot c'est God, c'est-à-dire Dieu. Est-ce que c'est Godot, une godasse, on sait pas ce que c'est, mais on attend. Il y a Dino Buzzati et le désert des Tartares, où on est aux confins du désert et on attend des ennemis qui ne viennent jamais. Mon personnage il est un peu pareil, et c'est un personnage qui attend et qui finalement vit une forme de condition qui me semble être la condition un peu de tout le monde, c'est que une vie n'est vivable qu'en attendant quelque chose. On attend un enfant, on attend des vacances, on attend d'être publié parce qu'on a passé 5 ans à écrire, on attend le week-end. Quoi qu'il se passe, il faut attendre quelque chose pour donner une forme à son présent et à son temps. Et ça, c'est une condition universelle. Et moi, mon personnage, en fait, est sans arrêt en quête de quelque chose dans lequel il va matérialiser cette attente. Ce qui est à la fois ce qui va le porter dans le monde, ce qui va le porter à travers l'époque, mais qui, en même temps, ce qui va aussi causer sa perte. Donc c'est un livre qui cherche à évoquer quelque chose d'un peu intemporel ou d'universel, et en même temps de l'incarner dans une époque où on passe des années Eurodance, des années 90, je parle de l'Eurodance à un moment, au début d'Internet, au printemps arabe, parce qu'il y a toute une partie aussi un peu sur le monde arabe. Et voilà, donc l'idée c'était vraiment de faire traverser ce personnage, et en particulier, peut-être que là où et je finirai là-dessus, là où la lecture justement des grands livres peut servir et inspirer dans l'écriture, en fait, c'est que c'est pas forcément qu'on se dit je vais faire pareil ou je vais mesurer à, mais en fait, je crois que la lecture des grands livres provoque de l'admiration et donc de l'inspiration. Et là, en l'occurrence, mon livre est assez marqué par Albert Camus, par un livre d'Albert Camus qui s'appelle La Chute. Alors, j'ai écrit mon tout premier livre sur Albert Camus, justement, donc c'est un auteur que j'aime bien, que je connais bien. La Chute, c'est un livre qui commence, qui est un livre qui écrit vers la fin de sa vie quand j'étais un peu déprimé. C'est un livre où c'est un avocat qui dit un peu de la même manière, j'ai réussi ma vie, mais en fait c'est un avocat qui en gros est un grand avocat, plaide pour la veuve et l'orphelin, bon, a un peu tout ce qu'il veut pour lui, en fait. Et en fait, sauf que, et à la fois, en fait, le statut social, l'aisance, et en même temps, la morale pour lui, parce qu'il a l'impression de d'œuvrer, encore une fois, pour la veuve et l'orphelin. Et en fait, un soir, il traverse un pont à Paris, et Camus écrit « Il fume la cigarette de la satisfaction ». Je trouve ça très beau comme expression, la cigarette de la satisfaction. Et en fait, il entend un cri en traversant ce pont, un soir à Paris, en sortant du palais de justice. En fait, c'est une femme qui se noie. Et cette femme qui se noie, en fait, il l'entend, mais il ne bouge pas. Et à partir de là, va débuter la chute, d'où le titre du livre, qui est qu'en fait, il va d'un coup revoir sa vie sous l'angle de sa médiocrité morale, et en fait, en enlevant l'espèce de masque social qu'il a, bah, voir à quel point, en fait, il n'est que confort et une forme, et il n'est que dans une forme de lâcheté par rapport aux vrais enjeux et aux vrais engagements, en fait. Et voilà, c'est un roman extrêmement puissant, extrêmement fort, assez court d'ailleurs, pour le coup. Et c'est un peu la forme qui m'a inspiré. Et l'autre livre, c'est un livre qui a été retraduit il y a 2 ans, qui s'appelle Mars, de Fritz Zorn. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Fritz Zorn, c'est un Suisse qui est mort dans les années 70 d'un cancer. Et en fait, le seul livre qu'il a écrit s'appelle Mars. Et où commence par les premières phrases du livre sont très connues parce qu'il dit, en gros, je suis... Alors, j'ai oublié exactement, mais en gros, je suis jeune, riche, et etc. Et en même temps, je suis névrosé, sale et malade. Et en fait, où il fait de son cancer qui va le vraiment tuer, un espèce de produit de son milieu social très bourgeois, c'est la grande bourgeoisie de Zurich. Donc à la fois le produit de son éducation bourgeoise, et le produit de son malheur, mais aussi le produit de sa condition quasiment métaphysique, en disant, en fait, le tragique de la condition humaine, je le porte sur moi par ce cancer. Et ce qui m'avait beaucoup inspiré dans ce livre-là, c'est l'idée, en fait, qu'il n'y ait pas de distinction entre le sociologique. Il y a beaucoup de littérature sociologique, et moi, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'ontologique, c'est-à-dire l'être, comment finalement vivre au XXIe siècle, comment vivre aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup chez Fritz Zorn, c'est qu'en fait, il mélange toutes les strates, c'est-à-dire qu'il y a une révolte d'abord contre son milieu, contre sa famille. Il y a une révolte contre la société plus large, contre l'hypocrisie sociale. Et puis enfin, il y a une espèce de révolte un peu contre Dieu ou contre la condition, en disant finalement, on est là, on ne sait pas trop ce qu'on fait là, ni quand ça s'achèvera, ni pourquoi on souffre autant. Et ça, j'aimais beaucoup parce que mon personnage a un peu cette espèce de sensation de révolte contre à la fois ce qui l'entoure socialement, mais aussi plus largement contre une espèce de condition et du fait que toutes les choses sont vouées à s'affaisser, que toutes les choses sont parfois vouées un peu à décevoir. Et j'aime bien la dernière phrase du bouquin de Fritz Zorn qui dit « Je suis en état de guerre totale ». Et je crois que c'est une bonne phrase pour finir. Merci.
C'était intense. Dense, mais très, très, très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ?
J'en ai plusieurs. Je voulais savoir si vous aviez repéré des différences de choix selon les métiers, par exemple, est-ce qu'il y avait des livres qui étaient plus mis en avant par les auteurs ou par les éditeurs? Voilà. Et je ne sais plus, j'avais une deuxième question, mais je ne sais plus. Bon, c'était déjà ça.
Oui, alors en fait, ça remonte à février-mars, donc je n'ai plus le détail des votes en tête. Mais oui, effectivement, déjà, les auteurs ont beaucoup cité Bolaño et Sebald. Et je sais que les libraires, c'est quasiment tous eux qui avaient cité, je crois, La Maison des Feuilles de Danielewski, qui est dans le résultat, qui est dans le palmarès. Donc oui, effectivement, on a vu des... Enfin, il y a un peu effectivement des tropismes. Après, sur les écrivains étrangers, par exemple, ils sont tellement de nationalités différentes que là, pour le coup, on... Ben c'est évidemment qu'il y a beaucoup moins de choses communes parce que j'ai eu un Indien, une Tunisienne, Villa Matas d'ailleurs qui a répondu, je vous l'aime bien, voilà. Alors lui, il avait mis Baumgartner de Paul Auster en premier. Alors je suspecte que c'est parce que c'était son ami et Léonce de Pierre Michon. Donc voilà. Mais voilà, donc c'est vrai que par exemple sur les auteurs étrangers, ben comme ils sont de nationalités très différentes, là, pour le coup. Par exemple, il y a un Indien qui m'a cité 5 livres indiens non traduits, donc...
5 voilà. Livres indiens non traduits.
Merci.
Dans le Télérama, quand c'est sorti, il y avait... donc Télérama sur Instagram a demandé aux gens de citer les 5... leur top 5 des 25 premières années. Et donc, ils ont aussi fait un palmarès des Instagrammeurs, on va dire. Et il y a quelques livres qui ressortent de là, mais Bolaño, par exemple, il ne sort pas du tout. Et moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai lu pas mal de livres, mais celui-là, je ne l'avais jamais entendu parler du tout. Voilà, je demandais quel microcosme, comment il a pu être connu aussi bien des écrivains. Et après, par contre, la fin de l'homme soviétique, je l'ai vu plusieurs fois cité par des auteurs, notamment lors du prix du livre Inter, où les écrivains qui étaient dans la shortlist étaient invités à discuter des livres qui les avaient inspirés, des auteurs qui l'avaient inspiré. Et Adèle Yvon et Sylvain Prudhomme ont cité la fin de l'homme soviétique. Donc je me demandais comment on pouvait avoir loupé ce chef-d'œuvre.
Ouais, c'est vrai que c'est... L'idée du classement, c'est pas de faire complexer les gens, parce qu'en vrai, quand je parle à des gens autour de moi qui sont pas dans le monde littéraire ou dans les lecteurs pointus, ils ont tendance à dire « Oh là là, j'en ai pas lu un seul, en gros, je suis un peu nul et je suis pas cultivé. » Évidemment, en fait, je pense que la vertu de ce palmarès, c'est pas tant de faire complexer les gens que, justement, précisément, de montrer aussi ce qui, par exemple, chez ce panel-là, qui est des gens éditeurs, écrivains, libraires, donc qui sont des gens qui, vraiment... ont une activité centrée sur la lecture, l'écriture, etc. Ces livres-là. Et en fait, la vertu, c'est d'abord justement de diffuser, de dire Bolaño, en fait, effectivement, aujourd'hui, dans le monde littéraire, entre guillemets, c'est sûr que Bolaño, c'est une espèce d'ultra-référence. Voilà. Et effectivement, en fait, c'est un auteur, mais comme Sebald, de façon encore plus marquée, parce qu'il est encore plus confidentiel, à la fois très très connu par certains cercles et en même temps pas du tout connu par d'autres. Je pense que si je parle de Bolaño à ma mère ou à ma tante, je suis pas sûr qu'elle connaisse, par exemple. Alors qu'il y a des grandes lectrices, des grosses lectrices aussi qui lisent beaucoup. Donc effectivement, en fait, il y a des strates, un peu comme dans beaucoup de formes d'art, c'est des strates entre des formes plus populaires ou plus grand public et puis des formes plus élitistes, on va dire, parce qu'évidemment Bolaño fait ça fait 1000 pages, donc déjà rien que le poids du livre peut être un obstacle. Et c'est pas forcément un livre dur à lire, mais c'est un livre dans lequel on se perd et dans lequel il faut avoir envie de se perdre sur 1000 pages parfois, même si c'est pas forcément en soi difficile à lire par l'écriture même. Et donc je trouve que peut-être la vertu de cette initiative, c'était aussi de décloisonner ça et de montrer chez les gens qui sont un panel de gens vraiment qui font profession de ça, c'est les auteurs-là qui reviennent beaucoup, quoi. Mais en tout cas, vous n'êtes vraiment pas la seule dans les gens que je connais autour de moi, à m'avoir dit Bolaño, jamais lu, ou juste j'ai entendu parler une fois comme ça. Donc encore une fois, j'insiste, le but, c'est précisément pas de faire complexer, mais plutôt justement de diffuser, de montrer aussi ça et de donner envie de lire, parce que peut-être que dans cette liste-là, il y a des découvertes à faire, quoi.
On en a lu plusieurs grâce à vous. D'autres questions ?
Donc là, vous nous avez parlé rapidement des 25, mais certainement, il y en a qui sont sortis, mais qui ne sont pas arrivés parmi les 25. Parmi ceux-là, est-ce qu'il y en a quelques-uns dont vous pourriez parler ou qui vous ont un peu retenu ?
Ouais, évidemment, je crois que je sais plus le total de livres qui ont été nommés par les 60 personnes. Donc, chaque 60 personnes ont donné 5 titres. Donc, ça fait, je fais pas le calcul, mais 60 fois 5. Donc, 300, si je calcule bien. Donc il y a eu potentiellement 300 livres cités. Évidemment, il y en a X qui ont cité Bolaño. Mais il y a peut-être une centaine de livres qui ont été cités. Et effectivement, il y en a qui sont passés pas loin. Par exemple, je pense au Portugais Antonio Lobo Antunes, qui était pas loin. Mais en fait, typiquement, c'est quelqu'un qui a une œuvre où il n'a pas forcément, surtout au XXIe siècle, un livre qui ressort. Donc en fait, ça c'est un peu aussi étalé entre plusieurs livres, et c'est ce qui, en fait, voilà, c'est le biais d'un palmarès comme ça, c'est d'être centré sur une œuvre et pas sur, enfin, sur une œuvre au sens de livre et pas une œuvre au sens de ensemble de livres. Voilà, il y a Joyce Carol Oates qui est un très bon exemple aussi, parce que c'est une éternelle prétendante au prix Nobel, qui est américaine, qui est vue comme la Balzac américaine, et qui justement en fait a écrit, je sais pas, peut-être 40 ou 50 livres depuis 50 ans, et qui au revoir. Et donc Joyce Carol Oates qui donc en fait n'a pas une œuvre qui ressort en particulier, elle fait partie aussi des absents qui clairement auraient mérité d'y être. Encore une fois, je citais Coetzee, le Sud-Africain. Alors peut-être parce que ses meilleurs livres, ses plus connus, sont sortis plutôt dans les années 80-90. Paul Auster aussi, peut-être sa trilogie new-yorkaise, c'est avant les années 2000. Et Krasznahorkai, qui a été le prix Nobel il y a quelques Laszlo Krasznahorkai, le Hongrois, qui a été prix Nobel il y a quelques, enfin le qui vient d'être de recevoir le prix Nobel. Ouais, il est lisible. Alors, il a un peu quelques des livres. Enfin, il est lisible. Enfin, ça reste, oui, quand même un peu pointu, mais je veux dire, c'est pas un auteur illisible, loin de là. Mais évidemment, il est connu pour faire des phrases très longues. Et il a toute une série de livres qui sont assez courts, qui font une centaine de pages, et puis d'autres séries de livres qui sont beaucoup plus longs. Et Krasznahorkai, alors moi, j'aurais beaucoup. Enfin, c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc j'aurais vraiment aimé qu'il y soit. Et en fait, il y en a plusieurs qui ont voulu nommer Guerre et guerre, qui est un livre paru en 2013 en France. Et en fait, le truc, c'est qu'il était sorti en 99 en Hongrie. Alors là, pour le coup, c'est un peu le biais un peu bête du classement, c'est d'avoir des règles comme ça. Mais comme j'avais dit, en fait, il faut que le livre soit sorti au minimum en 2000. Ça fait que, en fait, ça a éliminé. Alors même qu'en fait, c'est un peu bête parce que c'est une œuvre qui a produit ses effets au XXIe siècle, même si elle est sortie techniquement, on peut dire qu'elle est au XXe. Donc Krasznahorkai fait partie aussi, ouais, des très grands auteurs qui n'y figurent pas et qui auraient largement mérité de... Mais par exemple, là, il a écrit un de ses derniers grands livres qui s'appelle Le Baron Venkheim et de retour, qui est sorti il y a 2 ans. Peut-être que dans 10 ans, en fait, il serait nommé. En fait, c'est aussi qu'après, il faut que le temps que les œuvres produisent leurs effets, quoi, aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est des exemples d'auteurs qui auraient mérité d'y être et qui y sont pas.
Oui, le roumain dont vous parliez, oui, tout à l'heure.
Mircea Cărtărescu.
Voilà, on ne le connaît pas. Comment se fait. Enfin, bon, on connaît peu la littérature roumaine, ça c'est sûr.
Mais... Bah, en fait, il est. Alors, évidemment, là aussi, bon, il est plutôt connu. Enfin, sur la littérature étrangère, en plus, c'est particulier. Il y a eu des articles là-dessus ces dernières années, mais c'est vrai que la littérature étrangère, c'est vrai que le public vraiment de littérature étrangère a tendance à vraiment décroître. Et aujourd'hui, même les auteurs un peu Villamatas, Travers Sarkas, assez connus étrangers, enfin, aujourd'hui ont des ventes qui baissent, Salman Rushdie. Enfin, il y a aujourd'hui un déclin de littérature étrangère qui participe, je pense, aussi au fait que certains noms arrivent moins facilement au grand public. Cărtărescu, il est très connu dans un tas de pays. Sa grande trilogie qui s'appelle Orbitor est parue fin des années 90, début des années 2000, mais en fait, elle est... En France, il était indisponible pendant longtemps. En fait, c'est des livres qui avaient été traduits, mais qui n'étaient plus édités. Il était chez plusieurs éditeurs. Et des fois, ça, c'est aussi ça, la vie littéraire, en fait. C'est au-delà, en fait, des œuvres, etc. C'est aussi que, typiquement, quelqu'un comme Cărtărescu, il a vraiment été redécouvert en France par, en gros, un public vraiment averti de lecteurs, avec Solénoïde, qui est paru à la fin des années 2010. Globalement, enfin, même moi, c'est à partir de... C'est avec ce livre que j'en ai entendu un peu parler, chez des gens que je connais qui lisent beaucoup, etc. Mais en fait, en France, il y a eu 4-5 œuvres qui ont été publiées de lui depuis les années 90. Mais en fait, comme c'était chez des éditeurs différents, comme il y en a une qui était pas très bien traduite et qui vient d'être traduite, etc. En fait, ça a un peu éparpillé l'œuvre et ça a posé problème. Par exemple, typiquement, Krasznahorkai, c'est intéressant parce que ses deux premiers livres ont été édités chez Gallimard dans les années 90. C'est Le Tango de 100 ans et Mélancolie de la Résistance. Et Gallimard l'a un peu lâché derrière. Parce que Gallimard a historiquement beaucoup publié de grands auteurs étrangers, même qui n'étaient pas très rentables. Mais il y a un moment où, s'ils ont le prix Nobel, là, d'un coup, c'est vous qui l'avez édité. Et en fait, il a été réédité vraiment par ces années 2010 chez Cambourakis. Et c'est vraiment là où Krasznahorkai a commencé à acquérir une forme d'audience parce que tous ses livres sont sortis chez le même éditeur, parce que, etc. Et c'est pour ça aussi que des fois, ça dépend en fait de trajectoire. C'est-à-dire qu'en France, on connaît surtout Cartarescu pour Solénoïde, alors que lui, il va estimer que la grande trilogie qui vraiment marque l'apogée de son œuvre, c'est Orbitor, qui est sorti 15 ans plus tôt, en fait, mais qu'en France, personne n'a encore vraiment lu. Donc il y a des effets de réception parfois qui peuvent jouer. Pour Cartarescu en particulier. Je sais que là, Solénoïde a été traduit en anglais il y a 2 ou 3 ans, donc encore plus tardivement qu'en France. Et qu'il il était dans la sélection du Booker, Man Booker International Prize, un des plus prix, les plus prestigieux anglo-saxons. Et il ne l'a pas eu finalement, mais ça montre en fait que même là, dans le monde anglo-saxon, il commence à avoir une notoriété qui fait qu'il est quand même repéré. Mais ça a été assez tardif en fait. Et c'est pour ça que aussi. Il y a tout un tas d'effets de légitimité en fait, qui sont parfois un peu liés à des choses très contingentes, qui sont le traducteur qu'on a eu, qui sont les éditeurs qui nous ont suivis ou pas, qu'on fait le travail aussi pour faire exister l'œuvre en France ou pas. Voilà. Et Cartarescu, c'est peut-être aussi un peu ce qui fait qu'il est moins connu que d'autres.
Je vous propose de poursuivre nos échanges en bas, au foyer. Et je signale que notre libraire préféré, Bénédicte, elle est où ? Je ne la vois pas. vous proposera à la vente le livre de Younes, donc « Les présences imparfaites », pour la dédicace. Voilà, merci beaucoup.